Bien. Voilà, donc qui souhaiterait poser une question, intervenir à propos de l'une ou l'autre de ces communications ? Vincent Cossard.
Merci, j'ai une question pour Thierry. Est-ce que les tentatives d'ouverture vers l'alévisme que l'on voit de la part d'Erdogan et de l'AKP depuis quelques années font consensus à l'intérieur du milieu de l'AKP et correspondent sont en cohérence avec les convictions religieuses de ces gens-là, ou est-ce que c'est plus pour eux une manœuvre un peu, enfin sinon cynique, du moins tactique, de faire passer une légitimation de l'islam sunnite majoritaire.
Alors c'est justement une des lignes de fracture, c'est que tous ne sont pas d'accord. Les membres les plus religieux, donc qu'ils soient membres de l'AKP ou parmi ses soutiens, ne veulent pas entendre d'une ouverture à la Lévine. C'est une ouverture la plus terrible des hérésies. Donc. Et là, ils s'opposent. D'un autre côté, donc, l'alévisme lui-même est un mouvement pas vraiment homogène. Certains alévis se connaissent comme appartenant à l'islam, à une des familles de l'islam qui n'est ni sunni ni chiite. D'autres, au contraire, se disent hors de l'islam. Donc il y a une difficulté aussi de trouver des interlocuteurs. Et tous ne sont pas ouverts. Lorsque le discours... Enfin, il faut voir que ce sont des membres de l'AKP qui sont les premiers dans l'histoire de la Turquie à s'être rendus sur des lieux de culte alévis. Et à reconnaître en quelque sorte par cette démarche ce courant. Donc c'est en train de se faire. Alors certains alévis vont dire non, c'est faux, c'est tout à fait hypocrite, on essaie de nous assimiler. C'est vrai aussi, mais tout dépend quels sont les acteurs qui vont prendre en main cette ouverture.
Madame, d'abord, je crois, et ensuite.
Oui. Mais pour rebondir également sur la question des alévis, je me demandais dans quelle mesure l'ouverture éventuelle vers les alévis n'est pas liée d'une part à la politique allemande, à la politique du gouvernement allemand vis-à-vis des alévis, et également aux pressions de la Cour européenne, parce qu'il y a des pressions quand même très fortes, et je crois que ça fait partie des prérequis pour une entrée éventuelle de la Turquie dans... Donc est-ce que c'est... J'imagine que c'est pas du tout désintéressé de la part de...
Non, je pense que bon, les Turcs, l'AKP le sait très bien, je veux dire. Cela dit, du côté de l'Europe, au tout début, lorsque les Européens, enfin, dans les rapports d'analyse de la situation turque, lorsque les experts européens parlaient de l'alévisme, ils confondaient tout. Ils les prenaient pour des confréries soufis, donc ils ont créé une confusion étonnante. Bon, ils se sont corrigés ensuite. Il est vrai, mais je crois qu'il y a une véritable volonté aussi chez l'AKP d'essayer donc de s'entendre, de trouver... Mais c'est très difficile. Il y a une espèce d'obstacle théologique. C'est-à-dire la difficulté de reconnaître quelque chose qui n'est pas acceptable d'une certaine façon. Donc les théologiens les plus modérés vont essayer d'aller dans ce sens, donc d'aider au règlement de la question, mais ce n'est pas une affaire qui est gagnée.
Oui, ces dernières années, la Turquie a été plusieurs fois condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg pour discrimination envers les alévis. Et donc, je me posais aussi la question, comme Sylvie, de l'influence de cette condamnation européenne de la Turquie par rapport à la discrimination à l'encontre des alévis. Et mon autre question, c'était l'enseignement religieux à l'école. Donc, si je comprends bien, c'est un enseignement religieux musulman sunnite. Et je vérifie auprès de toi mon information. Les chrétiens et autres religions peuvent en être dispensés, mais pas les autres formes d'islam. Donc, ce qui, en particulier, les alévis n'ont pas droit à une dispense, alors que c'est de facto un enseignement religieux sunnite.
Alors, pour ces cours, ils ont ouvert quand même, intégré dans l'enseignement des éléments qui concernent le schisme et puis les formes de crypto-schisme dans lesquelles, ou de religion syncrétique dans lesquelles pourraient se reconnaître les alévis. Donc ça, ils vont dans ce sens-là. Hein. C'est-à-dire qu'ils essaient de l'ouvrir. La première question, je crois que c'était sur...
L'influence de l'Europe et la condamnation de la
Turquie. Oui, alors... Beaucoup d'alévis, bon, comme je disais, il y a bien des fédérations d'alévis, mais beaucoup de groupes d'alévis en Turquie sont opposés, ne sont pas d'accord. Donc certains collaborent. On a même eu des députés alévis des députés de l'AKP qui étaient alévis. Donc certains ont démissionné ensuite. Mais alors, il y a des accords entre certains groupes alévis et le gouvernement. D'autres n'acceptent pas. Alors, dans certains cas, c'est vécu sur la forme d'une assimilation. C'est-à-dire, à une époque, l'AKP considérait que l'alévisme était des espèces de frères en religion séparés, auxquels il fallait faire comprendre qu'ils devaient, en fait, se corriger et puis rentrer dans la bonne voie de l'islam sunnisme. Puis dans d'autres cas, tout simplement, des religieux, des membres de l'AKP plus ouverts, ont vraiment donc accepté, essayer de s'entendre avec l'alévisme sans quelconque forme d'assimilation. Donc il y a plusieurs. Alors il y a des gens qui se plaignent, d'autres personnes au contraire, qui trouvent que ce processus est en bonne voie. Donc c'est quelque chose de très. On a des voix discordantes.
Merci à tous. Une question pour Madame Rochefort. Vous nous avez bien montré comment, en fait, dans le passé, on avait une laïcité qui était dans un modèle patriarcal et de domination masculine, au fond, comme l'Église catholique pour ce qui est de la France. Est-ce qu'on n'assiste pas vraiment aussi aujourd'hui à une espèce de mutation de la laïcité dans la mesure où la question féminine, la question féministe même, et la question de genre, est de plus en plus mentionnée dans le débat public et par les acteurs comme étant intrinsèquement liée à la laïcité? Donc est-ce qu'il n'y a pas, de ce point de vue-là, une espèce de mutation très profonde de la laïcité et comment l'interpréter ?
Ben, pour répondre très, très rapidement, c'est tout le problème de l'adhésion à une égalité formelle ou à une laïcité formelle. Une fois que la laïcité est un cadre et qu'on ne l'interroge plus, une fois que l'égalité des sexes serait un cadre et qu'on ne l'interroge plus, et qu'ensuite ça donne lieu à des interprétations différentes. Il se trouve que dans une partie de cette controverse, effectivement, l'égalité des sexes et le féminisme sont apparus comme des éléments de débat très importants. C'était d'ailleurs assez complexe parce que finalement, c'était des débats souvent avec une forte connotation idéologique. C'est-à-dire que c'était plus, on peut dire, une forme d'instrumentalisation d'une valeur plus que véritablement la mise en œuvre de cette valeur. Et que par ailleurs, c'est pour ça que c'est intéressant de comparer avec une laïcisation peut-être plus libérale autour des couples de même sexe, où là, au contraire, il y a déficit d'une pensée en termes de genre, déficit d'une pensée politique plus offensive qui pourrait mettre en valeur cette laïcisation libérale. Et donc, il y a une espèce de deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'on invoque cette valeur d'égalité pour un argument répressif et finalement avec peu de suite dans les conséquences de ce que serait une véritable laïcité égalitaire. Donc c'est vraiment à double, c'est un double langage.
Oui, j'ai une question pour Monsieur Camursa. J'ai été fasciné par les symboles religieux et la taille de ces symboles religieux. Ma question qu'en est-il de l'évolution ? Donc, est-ce qu'il y a de plus en plus de ces symboles ? Est-ce qu'il y a des données qui pourraient nous le démontrer ? Et si c'est le cas, donc comment est-ce qu'on l'expliquerait ?
Bon, j'ai essayé de souligner des idées dans ma présentation. La première est que pendant l'histoire de la laïcité au Brésil, il n'existe pas une normative, une norme pour régler ça. Ça que a permis et en permet une situation flexible, souple dans l'interprétation de ce que ça veut dire laïcité. Et la deuxième idée, c'est que la conception de laïcité par le religieux, c'est plus une règle de séparation Église-État et plus une participation équitable entre catholiques, protestants et d'autres religions, suivant critères, comme on dit, numériques. Donc, c'est ça. Il existe aussi, avec la démocratisation du pays, le secteur, les féministes, les agents d'État qui veulent introduire en législation un peu plus élargie de ça, incorporer les droits des secteurs minorités. Mais ça, il y a une alliance forte entre les catholiques et évangéliques pour éviter ça. Donc, l'idée de laïcité, c'est... je me souviens que dans les programmes du PT, le programme de la candidate présidentielle, la présidente, actuelle présidente Dilma Rousseff, il y a eu l'incorporation de beaucoup de droits de secteurs minorités, comme la permission d'avortement, le mariage partout. Et ça, les secteurs évangéliques ont fait que Dilma a renoncé à ce programme. Donc, au Brésil, c'est un peu comme ça la situation au moment.
Bien, il y a trois demandes de prise de parole. Oui. Roberto Blancart, et ensuite Jean Bovero et Philippe Portier. Je crois que nous arrêterons là.
Je voulais seulement faire un remarque et une question. D'abord, la question de, disons, la proximité entre le modèle mexicain et le modèle turc à propos de ce type de laïcité qui est une laïcité autoritaire, mais qui devient une laïcité plus démocratique. Et à ce moment-là, il y a la religion qui revient à la sphère publique, et pas seulement ça, mais des places où commence à essayer à déplacer la laïcité elle-même. Et donc, une espèce de paradoxe dans le fonctionnement de la laïcité. Mais à propos de ça, je voulais poser la question de la Turquie. J'ai l'impression, à partir du Mexique, c'est-à-dire que la situation au Proche-Orient n'est pas plus compliquée grâce à la Turquie, grâce à la sécularité ou la laïcité turque, dans un certain sens. Parce que j'ai l'impression, bon, il y a deux possibilités. Soit la Turquie est plus laïcisée et donc l'islam est plus modéré. Et donc ça a un effet, disons, de modération sur l'islam politique. Ou soit l'autre possibilité est que c'est grâce à qu'il y a le retour de l'islam modéré en Turquie, qu'il y a un élément de dissuasion sur l'islam politique le plus, disons, radicalisé. Je ne sais pas si c'est à cause de la laïcité ou à cause de l'islam modéré que les choses se passent comme ça, ou si c'est autre chose. Je me demande.
Jean Bovero. Oui, je voulais savoir, donc les deux communications sur l'Amérique latine ont montré à la fois des processus historiques un peu différents, mais aussi certains problèmes communs. Hein. Bon. Et alors, j'aurais voulu savoir, bon, alors il y a l'obstacle de la langue entre l'espagnol et le portugais, mais est-ce qu'il y a une organisation, disons, un peu laïque, transnationale au niveau de l'Amérique latine? Quels sont ces combats principaux? Quels sont les enjeux, etc.? Enfin, c'est un aspect qui n'a pas eu le temps d'être abordé, mais qui serait intéressant à signaler quand même.
Est-ce que l'un ou l'autre...
Alors, je vais dire que... Mexique est hors de l'Amérique latine. Et même, comme a dit Lázaro Cárdenas, né, pauvre Mexique, si loin de la... si loin de quoi même? Si loin de Dieu, si proche des États-Unis. Bon, mais Je pense que sont de situations différentes. C'est que je voudrais souligner, c'est au contraire de Mexique que depuis la révolution, l'idée de laïcité, d'une normatisation très nette, très claire, au Brésil, c'est différent. La laïcité, c'est un peu un jeu de force, et selon la situation, je ne sais pas si existe en français cette expression, les chaleurs du moment. Non, selon la chaleur du moment, les choses peuvent changer. Non, mais à mon avis, je n'ai pas, la notice, je n'ai pas l'information que d'un organisme pour discuter la laïcité au niveau de continent. Qui recouvre Mexique jusqu'à l'Argentine. Né? Mais, par contre, il y a des efforts. Né? Je sais que les gens de Mexique, particulièrement M. Daniel Gutierrez, est venu au Brésil. Il y a eu, comme un représentant, je ne suis pas sûr, d'un organisme pour parler et pour faire quelques accords sur l'idée de laïcité. Mais même l'exemple que je vous ai montré sur les espaces interreligieux dans les hôpitaux et centres commerciaux, né, je pense qu'il y a une influence de ces mouvements, né, d'arrêter les chapelles catholiques qui jusqu'au moment s'est placé dans les hôpitaux et de mettre ces espaces interreligieux, c'est ce que je sais jusqu'à ce moment.
Je crois que vous l'avez bien dit. Je crois que la question, c'est l'Amérique latine. C'est ce qu'on dit, qu'on appelle l'Amérique latine, c'est un ensemble avec une tradition, qui vient de la période coloniale espagnole et portugaise, mais en même temps, et donc on a des grands mouvements d'ensemble qui peuvent être, soulignés, vers la fin du 19e siècle, il y a la période où le libéralisme appuyé par les économies d'agro-exportation a été très important. Mais puis, en même temps, on doit reconnaître que ce qu'on appelle l'Amérique latine, c'est un ensemble de 20 pays, avec chaque pays avec sa propre culture politique. Et c'est une chose très importante qu'on peut parler d'un ensemble, mais en même temps, on doit revisiter et chaque pays a sa propre culture politique. Et les différences, par exemple, dans le cas du Mexique, c'est très important, bien sûr. La différence a été la révolution mexicaine, qui a continué l'effort du libéralisme du 19e, et ce n'est pas le cas, pour la plupart des pays de l'Amérique du Sud qui ont plutôt... se sont plutôt engagés dans une voie de nationalisme catholique populiste qui s'est développé d'une autre manière. Mais sinon, je crois que...
Oui, pour aller dans le sens de ce que vient de dire Roberto, quand on compare le Mexique et le Brésil, il y a un phénomène convergent. C'est le fait que le religieux, le signe religieux, réapparaît dans l'espace public. Mais est-ce qu'on peut dire que cette convergence ne dissimule pas en fait des trajectoires différentes, avec du côté du populisme mexicain l'idée qu'on essaierait de reconstituer une religion civile unificatrice, et du côté du Brésil une dualisation de l'usage du référent religieux, avec cette idée qu'à partir du référent religieux se mettent en scène des conflits entre les deux polarités essentielles du champ religieux, d'un côté la polarité évangélique et de l'autre la polarité catholique. Voilà en somme la question. Convergence sans doute, mais en même temps des trajectoires différentes dans l'appréciation de l'usage du référent religieux.
Je crois que ce qui fait le phénomène commun, c'est le retour du religieux dans la sphère publique. Mais la culture politique brésilienne est beaucoup plus, a une tendance à accepter ce retour, parce qu'en fait, il n'a jamais disparu. Et par contre, la culture politique mexicaine est beaucoup plus, dure contre l'apparition des symboles religieux, et il y a une réaction beaucoup plus forte. Donc, je pourrais plutôt penser que la culture politique mexicaine est beaucoup plus laïcisée que la culture politique brésilienne. Mais la chose qui, l'élément commun, c'est le retour du religieux dans la sphère publique.
Un dernier mot.
Dernier mot, je suis d'accord avec Roberto et Philippe, mais je voudrais dire que, quant à nous, nous avons notre populisme aussi. Non, ce type de politique qui se profite des éléments religieux pour gagner les élections. Mais ce qui change au Brésil, c'est que cet homme politique commence à faire les alliances avec les églises évangéliques, plutôt, et aussi les catholiques, pour arriver au pouvoir. Donc, il y a un programme par les églises catholiques et évangéliques que cet homme doit faire quand ils sont élus. Né? Et aussi, ce qui se passe au Brésil est que, petit à petit, les églises mêmes ont des candidats. Né? Le rêve évangélique, il existe un slogan, est mettre un homme de Dieu au pouvoir. Donc, petit à petit, on voit, je ne sais pas comment on dit en français, il y a un groupe chrétien, un groupe religieux de députés et sénateurs qui s'articule. On dit en portugais en bancada, c'est un groupe, un lobby, non? Mais un groupe parlementaire, bancada. Donc, c'est un groupe qui, petit à petit, il commence à grandir et faire que ce programme gagne beaucoup de votations au Parlement.
Merci beaucoup.